Je n'ai pas repris le titre complet de l'étude, mais vous l'avez bien compris, ça va bien au-delà du catalogage, c'est surtout question de métadonnées. Donc là, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est l'état d'avancement de nos travaux, sachant que, comme on en est encore au milieu, hein, bien sûr, rien n'est décidé, rien n'est acté, et ce ne sont que des hypothèses sur lesquelles on a travaillé et sur lesquelles on travaille encore. Et donc là, c'est vraiment un état de là où on est. Donc on en a parlé ce matin, mais je ne pouvais pas m'en empêcher de faire un petit peu d'histoire pour resituer le périmètre des catalogues avant le SUDOC et des plateformes de catalogage partagé qui existaient, et je dis « des » au pluriel, exprès, pour arriver effectivement après 2000 à une plateforme de catalogage partagé dans laquelle il y avait 7 établissements, les 7 sites pilotes SUDOC à l'époque. Et puis ben, aujourd'hui, c'est plus 7, c'est 164. Et encore, j'ai oublié les 4 de nouveaux déployés de cette année. Donc, c'est 168 en réalité. Ça, c'est sur les chiffres 2013. Donc, le périmètre, comme vous voyez, il a complètement changé. Il a changé en 20 ans. Et aujourd'hui, on est effectivement dans une nouvelle phase de changement, à savoir vers quoi on avance et vers quoi on va en fonction des nouveautés qui sont indéniables et des ressources électroniques en particulier. Donc rapidement, la valeur ajoutée du SUDOC, on en a déjà aussi beaucoup parlé ce matin, vous la connaissez, hein, c'est aujourd'hui une partie intégrante du travail de toutes les bibliothèques du réseau, et quand je parle du réseau, c'est des réseaux, SUDOC et SUDOC-PS, c'est de l'efficacité dans le processus de catalogage, c'est 80% de dérivation, donc 20% de création originale, c'est la qualité des notices, c'est l'amélioration des notices par le réseau et par des outils qu'on essaye de mettre en place comme le hub pour encore améliorer certaines des notices. Et puis c'est une culture et des règles de catalogage communes, parce que c'est du catalogage partagé. À côté, il y a un catalogue collectif, qui en réalité est exactement le même périmètre que le catalogage partagé, avec les métadonnées des catalogues des bibliothèques déployées, des SUDOC-PS, un outil de découverte pour les utilisateurs finaux, et puis les services, alors je ne les ai pas tous listés, hein, c'est vraiment le cœur de notre métier. C'est SUPEP, PEP Pro, l'outil de gestion des collections et tous les autres services qu'on a ouverts et qu'on a mis en place au fil de l'eau pour améliorer, on l'espère, les services dont vous avez besoin. Donc la question qui se pose, c'est demain, vers quoi va-t-on? Donc le réseau SUDOC est-il menacé? C'est une des premières questions qu'on s'est posées au sein du groupe. Parce qu'il y a un certain nombre de faits qu'on est obligé de prendre en compte. La première de ces menaces, si on doit appeler ça une menace d'ailleurs, hein, après la question, c'est vers quoi on veut aller, c'est autre chose, c'est la compétition exercée par les clouds commerciaux par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui dans le SUDOC, dans le réseau français. Et si on prend un exemple, on a déjà un établissement qui a décidé de partir du réseau SUDOC, de ne plus cataloguer dans le catalogue partagé SUDOC, pour cataloguer dans WordCat en prenant le système WordShare pour leur système local SGB dans les nuages. Donc d'ores et déjà, on est confronté à ce problème ou à cette question, à savoir, voilà, on est en train de travailler sur un projet de SGBM de manière collaborative, mais rien n'empêche certains d'entre vous de faire un choix, le même ou différent. Et là, la question qui se pose, c'est effectivement comment nous, ABES, comment le réseau, on réagit et quels outils on met en place pour trouver des solutions de manière à ce que tout le monde soit satisfait. L'autre question qui se pose aussi parallèlement, c'est a-t-on toujours besoin d'un catalogage partagé? Alors c'est vrai qu'on n'en avait pas avant, on en a un depuis 20 ans, est-ce qu'on doit continuer à en avoir un? On est nombreux, je crois, à penser que ça serait bien que ça continue. C'est des règles communes de catalogage, c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui n'existe pas ailleurs, et tout à l'heure je parlerai des quelques exemples étrangers qu'on peut connaître et qu'on a analysés, qui généralement ne partent pas du tout de la même situation que nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas aujourd'hui un catalogue centralisé, unique, partagé pour toutes les bibliothèques d'un État, on va se positionner au sein d'un État, mais on voit que dans les différentes solutions et différentes réactions de certains établissements, et surtout en ce qui concerne les sciences dures, et on a l'exemple de l'université d'Eindhoven, qui ne va pas passer dans le système proposé par WordCat et proposé aux Pays-Bas, parce qu'ils n'ont plus besoin, d'après eux, de catalogage partagé, parce qu'ils n'ont quasiment plus de documents physiques, à peu près 400 par an, donc ils n'ont plus cette nécessité-là d'avoir effectivement, d'après eux, je ne sais pas non plus à long terme ce que ça donnera, peut-être qu'ils y reviendront, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Les points faibles du SUDOC et du SUDOC et des SIGB, j'insiste là-dessus, c'est bien les points faibles de nos relations entre nous. Il n'y a pas de synchronisation en temps réel entre les SIGB et le SUDOC. C'est tous les jours, voire toutes les semaines pour certains établissements. Et là, c'est la faute à tout le monde et à personne. C'est qu'il y avait des solutions de synchronisation immédiate, hein, mais à l'époque où on l'a mis en place, les SIGB en général n'étaient pas en mesure d'installer le module de synchronisation immédiate qui s'appelait OUF. Alors aujourd'hui, on a d'autres protocoles de communication sur lesquels on pourrait tout à fait travailler. On travaille déjà d'ailleurs sur ces protocoles-là de type SRU. Mais aujourd'hui, le fait est qu'il n'y a pas de synchronisation réelle, en temps réel, entre les SIGB et le SUDOC. La valeur ajoutée du SUDOC qui est souvent peu utilisée par les SIGB. Et on peut dire qu'aujourd'hui, sur 164 établissements, il y en a 132 qui ne récupèrent que leur propre mise à jour. C'est-à-dire qu'ils ne récupèrent pas le travail du réseau, l'enrichissement effectué par les autres collègues sur les notices du réseau. Alors les raisons sont multiples, hein. Il y a des raisons purement techniques, les fichiers sont trop gros, donc toutes les nuits, ce n'est pas possible d'intégrer des fichiers aussi importants. Il y a d'autres raisons qui sont parce qu'on a peur d'écrasement, on ne peut pas prendre le temps de tout vérifier, donc on veut être sûr que ce qui rentre dans notre système soit effectivement exactement le reflet du travail que les équipes ont effectué la veille, etc. Il y a 37 SIGB qui ne récupèrent pas les données d'autorité. Alors ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui les récupèrent. Après, ce n'est pas parce qu'on les récupère qu'on sait forcément les gérer. Et certains SIGB les récupèrent, mais sans pour autant réussir à gérer la notion d'autorité dans leur complétude. Mais c'est bien là encore où c'est le mieux utilisé, on va dire. Et puis là, le point faible du SUDOC, et que du SUDOC, c'est qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment de métadonnées de ressources électroniques chargées aujourd'hui, et donc ça ne couvre pas vos besoins. Donc on s'y efforce, mais c'est un énorme travail. Le hub est là pour nous y aider, avec surtout les ressources des licences nationales et ISTEX pour le moment. Mais c'est effectivement un manque, on n'arrive pas à aller assez vite par rapport à vos besoins. Quelques points sur les tendances dans le monde des bibliothèques aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les éditeurs produisent de plus en plus de métadonnées eux-mêmes, hein, ils en ont besoin. Et quand je parle éditeur, ça peut être aussi tous les autres métiers autour de l'édition, ça peut être les distributeurs, voilà, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais en dehors du monde des bibliothèques, il y a de plus en plus de métadonnées qui existent. On va plus, si on regarde un peu à l'échelle mondiale l'évolution qui est actuellement en cours, on va plus vers un système de catalogage partagé qui se ressemble plus à des manipulations de flux. Donc, où là, il y a plus des échanges, il y a des synchronisations, des échanges de données, en provenant des éditeurs en particulier. Et puis, ça, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, mais les méthodes d'acquisition changent énormément. Alors, les méthodes d'acquisition des périodiques électroniques, ça fait un moment que ça a changé, mais c'est en train d'arriver fortement en ce qui concerne les monographies. Et maintenant, les acquisitions de e-books par lot, par bouquet, sont quasiment généralisées, avec des méthodes tout à fait particulières. Hein, et ces méthodes où vous avez un lot de e-books et puis vous n'achetez en réalité que quelques-uns à la fin et puis les autres vous sont retirés. Ou il y a d'autres systèmes qui existent. Et là, ça veut dire une gestion des exemplaires très compliquée à faire parce que on a un exemplaire pendant 6 mois et puis plop, on l'a plus, donc il faut les retirer. Et tout ça, ce sont des flux de mise à jour qui sont assez lourds à mettre en place. Bien sûr, il y a toujours l'acquisition titre à titre qui continue d'exister pour le papier comme pour l'électronique, mais effectivement, ça baisse un peu. Les trois grandes fonctions du catalogue collectif, j'en ai déjà parlé, hein, mais c'est bien les sources de métadonnées pour le catalogue local, la visibilité du circuit national et régional avec tous les services, hein, le PEB, etc. Et puis, c'est partie intégrante du réseau de la connaissance. Mais tout doucement, on sent que les catalogues, on parle de part de marché, on a l'impression d'être dans du commerce, mais le marché de la découverte, avec l'arrivée de tout un tas d'autres outils autour de la découverte des métadonnées, rendent et amoindrissent la visibilité des catalogues. Cela étant, les catalogues sont encore aujourd'hui très utilisés. Les chiffres ne baissent pas encore, hein, et là, je parle aussi bien des chiffres. D'après ce que j'ai pu voir des chiffres dans les établissements, mais aussi des chiffres du SUDOC public, hein, tout simplement. Maintenant, on se sert aussi de plus en plus des métadonnées du catalogue en dehors du catalogue. C'est l'ouverture sur le web des données. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver par Google une notice Sudoc. Donc, c'est des choses qui avant n'existaient absolument pas. Donc, on peut tout à fait tomber sur une notice bibliographique descriptive d'une ressource sans être passé du tout par le catalogue. Et puis, c'est tous les outils que vous utilisez sur vos plateformes, hein, de fil RSS, de widget, de tout un tas de choses qui permettent d'accéder aux ressources du catalogue sans passer par le catalogue. Un point sur les effets des livres numériques. Alors là, on a pu, et c'est Maurice van der Graaf qui nous l'a souligné, hein, pu voir deux grandes familles en fonction des disciplines. Les disciplines scientifiques d'un côté, et puis les disciplines de sciences sociales et humaines de l'autre. Petit à petit, la plupart des livres électroniques sont édités par les grands éditeurs scientifiques sous les deux supports. Aujourd'hui, il y a le support papier et le support électronique. Les petits éditeurs n'y sont pas encore, mais ils ne vont pas tarder à y arriver. La question qu'on se pose, nous, dans le groupe aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? On est en train d'essayer de construire le système tel qu'il va, on l'espère, exister dans 10 ans. Donc, est-ce qu'on aura deux systèmes en fonction de la discipline? D'un côté, les sciences exactes, de l'autre, les sciences humaines et sociales. Où en sont les catalogues traditionnels quand il n'y aura plus du tout de papier? Enfin, il y aura toujours les collections anciennes. Il y aura toujours du papier. Mais pour tout ce qui est les acquisitions, tout ce qui tourne autour des nouveautés, comment les choses se mettront en place? Et puis, tous les nouveaux outils qui se mettent en place aujourd'hui autour de la découverte à l'échelle du web et toutes les tâches dévolues au catalogue traditionnel, comment vont-ils évoluer? C'est juste des chiffres du Sudoc. L'évolution de la création des documents physiques par rapport aux documents électroniques depuis 2011. Vous voyez que la courbe rouge baisse et la courbe bleue monte. Donc même si on est encore très en deçà de la demande en ce qui concerne les ressources électroniques, il y a eu beaucoup plus de nouveaux documents créés sous forme électronique, enfin c'est la courbe, elle monte largement, que de documents physiques dans le Sudoc. Donc c'est déjà une courbe et vous voyez que le virage, il est en 2012. Donc on est en plein dedans, c'est quand même relativement récent, mais on sent bien que les deux courbes vont pas tarder à se toucher. Bon, là, j'ai remis, mais je ne vais peut-être pas insister trop, si je ne veux pas dépasser trop le temps. C'est cette différence qu'on pourra retrouver peut-être, hein, c'est vraiment l'anticipation entre ce qui est du domaine des sciences exactes et ce qui est du domaine des sciences sociales, avec les besoins et la place du catalogue collectif et du catalogue partagé. Alors, nous avons travaillé dans le groupe sur ce qu'on a appelé les points essentiels, en s'appuyant sur 5 axes, en travaillant sur les scénarios d'évolution, en s'appuyant sur les exemples étrangers, en travaillant sur les flux de métadonnées, je vais revenir sur chacun de ces 5 points, sur le format interne des métadonnées, sur la question des autorités et sur tout ce qui tourne autour des FRBR. Alors, les scénarios d'évolution. Donc, le groupe s'attache essentiellement à travailler sur tout ce qui tourne autour du catalogage partagé et des services communs autour du catalogue collectif. Donc, ce qui est en bleu. Ce qui est en noir, on n'en parle pas. Et je n'en parlerai pas là, cet après-midi. Hein, c'est vraiment le cœur de notre problématique aujourd'hui. Donc, on a étudié plusieurs cas étrangers. Jean en a parlé ce matin rapidement. Plusieurs systèmes qui sont actuellement en cours de mise en œuvre ou en cours de réflexion. Il n'y a pas non plus aujourd'hui, dans les exemples qu'on a pu trouver, un système qui soit entièrement placé dans le cloud, qui soit entièrement fonctionnel. Donc ça, on n'a pas d'exemple comme ça aujourd'hui. Tous sont en cours de projet. Donc 4 grands scénarios, on va dire. Un scénario, comme on l'a appelé à la néerlandaise, où le choix a été fait de passer complètement dans le système de cloud, et je vais vous faire voir un petit schéma. Un scénario à l'allemande dont Jean a parlé ce matin, avec essayer d'aligner plusieurs systèmes de cloud. Un scénario à la suédoise où là, c'est absolument pas l'objectif d'un cloud commercial, c'est un développement local, dur, avec une adaptation du système en web de données. Et puis l'autre scénario, c'est comment on pourrait adapter le scénario actuel français, le CBS, si on veut parler technique, aux évolutions et à l'interconnexion avec les SGB que vous pourriez choisir, le ou les SGB. Alors le premier de ces scénarios, le scénario des Pays-Bas, ils ont décidé de ne plus mettre en place, de ne pas maintenir une plateforme de catalogage partagé. Tout le catalogage se fait dans WordCat. Il y a un catalogue collectif, mais qui est une vue du catalogue de WordCat. Hein, c'est juste un espace visible pour voir les collections des Pays-Bas. Le catalogage se fait en marque 21, avec la perspective d'évolution en utilisation de RDA. Ils ont obtenu d'OCLC le chargement de deux fichiers d'autorité dans WordCat, mais autrement, ils utilisent les autorités de la Library of Congress. Les fichiers autorités qu'ils ont chargés, c'est les collectivités, tous les fichiers de collectivités spécifiques aux Pays-Bas, etc., qui n'existaient effectivement pas dans WordCat. Un établissement, et j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, Eindhoven, n'a pas souhaité rejoindre le cloud de WordCat et le cloud des bibliothèques universitaires, estimant qu'il n'avait plus besoin de faire de catalogage partagé. Alors, le déploiement de cette plateforme est actuellement en cours. Par contre, ce qui n'a pas encore du tout été travaillé, c'est le PEB. Mais le PEB, il est à l'extérieur du cloud. Hein, et c'est un système, effectivement, purement hollandais, mais les développements n'ont pas commencé. Autre exemple, hein, ce qui se passe chez nos collègues allemands, où, comme l'a dit Jean ce matin, ils ne partent pas du même état des lieux que nous. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a 6 réseaux de catalogage partagé aujourd'hui, et l'objectif, c'est de centraliser au maximum. Cela étant, vu le contexte effectivement dans lequel on est, ils ne sont pas partis sur l'idée de centraliser sur un, mais centraliser en imaginant deux sources de métadonnées, deux clouds commerciaux, et là on est encore dans le domaine du commercial, avec WordCat et Alma. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du schéma, et puis j'en aurai pas le temps, mais l'idée, elle est qu'effectivement, le catalogage se fait soit dans WordCat, soit dans Alma, avec des synchronisations dans ce qu'ils ont appelé les German Data Space, mais avec un système d'autorité indépendant, comme pour nous IDREF, hein, leur propre système d'autorité, et puis toutes ces données vont dans un catalogue collectif, enfin, si on utilisait notre vocabulaire, c'est ce qu'on dirait, dans le German Data Pool, qui, à ce moment-là, pourra rendre tous les services. Donc, on imagine qu'il est prévu des fusions de notices, mais selon les règles de catalogage qui ne sont pas forcément les mêmes dans WordCat et dans Alma, comment tout ça arrive, effectivement, dans le German Data Pool, pour l'instant, on ne le sait pas. On posait la question ce matin des dates. D'après ce que j'ai compris, le lancement du projet a été fait en septembre 2013. Donc, on n'a absolument pas de recul encore sur l'avancement des choses. Le fameux German Data Pool, il a plusieurs objectifs. Un des premiers objectifs, c'est la sauvegarde, c'est de garder les métadonnées qui sont donc dans les nuages, d'avoir quand même une sauvegarde des données des établissements participants. C'est appuyer le PEB, bien sûr, dessus, c'est le catalogue collectif. Et puis, il y a une partie index unifié. Et là, l'idée, c'est d'avoir un index spécifique, mais qui puisse être ouvert à d'autres systèmes et surtout aux autres établissements qui ne participent pas à ce projet. Et là, il est spécifiquement fait à part des archives, des musées, etc., pour avoir un index un peu national sur d'autres types de ressources que celles présentes dans les bibliothèques universitaires. Autre système que nous avons regardé de plus près, c'est le système suédois. Alors là, les Suédois, ils sont partis sur une toute autre idée de ne pas partir dans les nuages d'un système commercial, donc ni pour ceux qui existent aujourd'hui, ni Alma, ni WordCat, ni autre chose, mais de créer leur propre système, donc de faire de l'autodéveloppement, et de partir directement sur la syntaxe RDF, donc de sortir complètement, d'éclater complètement les modes de fonctionnement bibliographique tels qu'on les connaît aujourd'hui. Pour éviter de reformer toute une kyrielle de bibliothécaires à ce nouveau format, deux interfaces de saisie, une interface qui utilise le RDF et une interface qui permet de saisir en marque 21, format que connaissent les établissements aujourd'hui. En ce qui concerne les autorités, c'est l'utilisation de la Library of Congress et de leur propre fichier d'autorité suédois. Ils ont beaucoup insisté dans les retours qu'on a pu avoir sur les formations, Parce que former tous les établissements à ce type d'outils nouveaux, avec un nouveau format, des nouvelles règles, etc., c'est quand même une très lourde tâche. Et donc, les trois axes sur lesquels ils ont travaillé, c'est des interfaces les plus intuitives possibles, et on est effectivement dans le domaine du web, des manuels en ligne les plus accessibles possibles, et puis organisation d'énormément de webinaires, donc de cours par web interposés, et aucune formation sur place, pas de formation organisée sur les sites. Maintenant, il souligne un problème dont il faut qu'on ait, conscience si on va dans une idée de ce type-là, c'est qu'en RDF, ça ne s'appuie que sur des liens. On ne fait que des liens. Et que pour que un lien marche, il faut que les systèmes qui sont liés fonctionnent. Et avec mon autre casquette star, je peux vous dire que quand la Library of Congress était fermée, il n'y a plus aucune validation de TEF qui était possible, parce que maths, mods sur lesquels on s'appuie n'étaient plus accessibles. Donc si on met en place un système RDF avec des liens, il faut s'assurer que ces liens fonctionnent 24 heures sur 24, autrement on ne peut pas lire la notice si on n'a pas les liens. Donc il faudra, et c'est ce qu'ils indiquent à un moment, imaginer de faire des copies quelque part quand même, d'avoir des copies d'espace pour pouvoir être sûr que les liens sont toujours accessibles 24 heures sur 24. Le prolongement du système actuel, je n'ai pas fait un beau schéma, c'est très simpliste, mais ça serait un peu ça. Ça serait des collègues dans un SGB, d'autres collègues dans un autre SGB, puis des SIGB qui continuent à fonctionner. Et puis on a toujours le PEB, IDRF, STAR. Le prolongement du système actuel, il est simple, c'est un seul endroit où on catalogue, le catalogage partagé, unique, centralisé, avec des outils qu'on ne connaît peut-être certainement pas encore aujourd'hui, parce que l'idée, elle n'est pas effectivement de garder le CBS, il va falloir qu'on avance et qu'on aille vers autre chose, mais c'est garder cette problématique catalogage partagé, catalogue collectif, à l'identique. Autre point sur lequel nous avons travaillé, c'est les flux de métadonnées. Donc pour le catalogage partagé, pour les ressources électroniques, vous connaissez un peu la question des flux de métadonnées. On a besoin des données des flux commerciaux. On a besoin également des métadonnées des éditeurs français qui sont généralement absents des flux internationaux. Et donc ça, c'est indispensable pour pouvoir les signaler et y accéder. Et puis, il y a la BNF avec le dépôt légal, il y a la BES avec le hub, les licences nationales, il y a Couperin avec les clauses sur les métadonnées dans les licences qui peuvent contribuer à l'amélioration de ces flux. Donc, c'est tout ça sur lequel on a déjà commencé, bien sûr, à travailler, mais sur lequel il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure. Pour le papier, d'après les chiffres qu'on peut avoir, l'existant, c'est-à-dire ce que le SUDOC vous propose dans le cadre du catalogage partagé du papier, l'accès à des bases à 39,50, l'accès à la dérivation semble suffisant si on s'en tient aux chiffres qu'on a aujourd'hui, qui sont effectivement 80% de dérivation. Ce sont les objectifs de nos collègues étrangers dans leur système de cloud. Donc on pense qu'on ne fera pas beaucoup mieux que ça en changeant de système. Ce schéma sur lequel je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui était là pour vous montrer les 5 types de métadonnées sur lesquelles on va travailler. Sachant que dans le cadre du groupe de travail, on ne travaille que sur les deux premières colonnes. Donc, je voulais revenir. Donc, il y a les métadonnées des publications imprimées pour le catalogage partagé et les catalogues, qui ont comme fonction la découverte, l'inventaire, la circulation. On y trouve les monographies, les périodiques et les liens vers les autorités. Les métadonnées des publications numériques pour le catalogage partagé et les catalogues locaux, pour la découverte, l'inventaire. Il y a les monographies numériques au niveau du titre, les périodiques également, les liens vers les autorités et l'accès aux documents. Puis en bleu, c'est bien en bleu là aussi, oui, vous avez les métadonnées pour la base de connaissances. Donc là, c'est base de connaissances, on en parlait ce matin avec Bacon. Et puis les métadonnées pour la gestion des ressources électroniques, où là sont rajoutés tous les éléments concernant les informations d'abonnement individuel, les bouquets, etc. Et dernière colonne, la notion d'index. Donc là, c'est la pure découverte, et où dans la pure découverte, on descend, non, on n'est pas uniquement au niveau du titre, mais on descend au niveau de l'article ou du chapitre pour les monographies. Mais ce qui nous apporte dans l'étude qu'on fait actuellement, c'est les deux premières colonnes, donc effectivement, ce qui concerne purement les métadonnées des ressources dans le catalogue. Troisième point sur le format interne des métadonnées. Alors, la nature du format interne n'a pas tellement d'importance en soi. Vous savez que dans le SUDOC, on est en PIK+, vous ne le savez pas, ça n'a aucune importance, vous ne le voyez pas et il n'est pas fait pour être vu. Ce n'est pas lui qui est important. Par contre, ce qui est important, c'est la granularité de la description de l'information. Et on est parti du principe qu'on n'avait pas envie de perdre la granularité d'une IMARC aujourd'hui. Il y a d'autres formats qui sont beaucoup moins fins en description. C'est a priori un minimum qu'on souhaiterait pouvoir conserver. Le format interne, il nous permet de pouvoir manipuler et extraire les métadonnées, mais justement de les convertir dans des formats. C'est ce qu'on fait avec le hub. On part de n'importe quel type de format, on le transforme en RDF, et puis on ressort du MARC 21, de l'UNIMARC. C'est ce que fait le SUDOC aujourd'hui aussi, alors avec des outils pas très nouveaux et pas très standards. Mais on sait faire. La nécessité des liens dynamiques entre données, ça c'est effectivement ce qu'on a aujourd'hui dans le SUDOC, même si ce n'est pas la panacée pour toutes les métadonnées. Mais c'est bien l'idée de faire des liens entre identifiants, de ne pas perdre cette faculté-là. Et puis, un point sur lequel on a quand même essayé de regarder aussi, c'est que l'interface de catalogage, quelle qu'elle soit, doit pouvoir supporter l'UNIMARC. Reformer l'intégralité des bibliothécaires français à un nouveau format de catalogage nous paraît quelque chose d'assez gigantesque. Ça a déjà été fait quand on a mis en place le SUDOC, où il y avait un prérequis d'UNIMARC. On a pu voir que, sur l'exemple des collègues suédois, il y a une interface en MARC 21, même pour faire du catalogage en RDF. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Quatrième point sur lequel on a parlé, je vais être très rapide, c'est les autorités IDREF. On est parti du postulat que les données d'autorité SUDOC IDREF devaient rester indépendantes des systèmes locaux, indépendantes du système mutualisé ou non, donc de garder une base autorité autonome et indépendante. Je vais finir par les FRBR. On en parle beaucoup au sein du SUDOC, pour ceux d'entre vous qui ont pu voir les échanges qui sont faits autour de ces questions-là. Ça semble être le meilleur modèle pour l'évolution des métadonnées, pour le catalogage partagé, les catalogues collectifs et vos catalogues locaux. Mais on est quand même confronté à des difficultés d'interprétation entre les œuvres et les expressions. Il y a des modèles différents et concurrents qui sont mis en place chez les éditeurs et qui s'appuient que sur deux niveaux. Avec le système d'identifiant des ISTC. Il y a normalement une pérennité des identifiants, mais il y a quelques questions qui se posent aussi autour de la pérennité de ces identifiants selon l'usage qui en est fait. Et puis, on peut remarquer que pour certains, que ce soit des autorités, mais également des données physiques, il y a eu des systèmes choisis par certains établissements en France d'identification pérenne d'accès à certains documents, puis qui ont changé pour passer de ARC à autre chose. Donc la pérennité est toute relative si on change de système en cours de route. Et puis la question qu'il faudra peut-être un jour se poser, si on rentre dans les FRBR, une notice d'œuvre, est-ce que c'est ou pas une autorité? Et si c'est une autorité, est-ce qu'il faut les mettre dans IDREF ou est-ce qu'on les met dans le catalogue collectif ou dans le catalogue partagé? Ça, ce ne sont que des questions, et je ne pourrais pas vous apporter de réponse. Donc, la réflexion continue. Le groupe se réunit la semaine prochaine, comme l'a dit Jean ce matin. On a encore 2-3 réunions avant la fin de l'étude. L'objectif de la suite, c'est d'avancer sur les scénarios, d'avancer sur déterminer quel scénario français serait le plus à même de répondre à l'évolution inévitable vers laquelle on doit aller, pour la production de métadonnées, le catalogage partagé, le catalogue collectif. Et c'est là-dessus qu'on va essayer d'apporter quelques réponses. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Marianne. Nous allons pouvoir prendre une série de questions sur l'exposé très riche qui vient d'être fait, très détaillé sur cette vaste problématique des données. Vous pouvez éventuellement aussi revenir sur des points qu'on a traités dans la matinée. N'hésitez pas.
Oui, Eva Nieszkowska de l'UPEC. J'ai une question concernant le scénario suédois. Si jamais il est choisi, est-ce que l'ABES va récupérer la plateforme suédoise pour l'adapter ou est-ce qu'elle va écrire sa propre plateforme façon BNF des années 90?
Alors, je ne suis pas incapable de répondre à cette question. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils ont fait leur propre format de catalogage, qui est avec leurs propres règles de catalogage. Hein, je ne me trompe pas, Jean, en disant ça, d'après ce que j'ai compris. Ils ont... Donc, je ne suis absolument pas capable de savoir si ça peut correspondre à nos propres règles.
Le sens de ma question, c'est surtout le développement d'une plateforme originale est très lourd, investissement humain et financier. C'est ça le sens de ma question.
Redis-le dans le micro.
Je dis, on s'est bien rendu compte qu'effectivement, si on voulait développer quelque chose comme Libris, XL, il y avait un coût humain important. L'autre solution, c'est effectivement de l'adapter, mais il y a un coût aussi. L'objectif de l'étude, c'est pas de trancher là-dessus, hein, sur comment on va faire techniquement. C'est simplement de savoir, est-ce que c'est le bon modèle d'aller, je dirais, directement vers l'RDF, ou est-ce qu'il faut faire une étape intermédiaire par quelque chose, marque, RDA, etc. En fait, c'est ça la question.
Enfin, je parle sous ton contrôle, mais ce que tu me disais, c'est que les interfaces pour travailler directement à RDF n'existaient pas encore.
Ah ben, la mise en œuvre en Suède, c'est prévu pour mars-avril 2014. Donc, ils sont en train de travailler dessus, c'est quand même bientôt. D'accord. Mais on ne les a pas vus.
Mais oui, y a c'est quelque chose d'imminent, mais qui n'existe pas encore.
Oui, a priori, oui. Voilà.
Donc qui n'est pas encore disponible.
La première fois en avril.
Et sur le point 2.
Alors, une question ici, puis ensuite.
C'est une petite précision concernant ce que les Suédois font à la Bibliothèque Royale, et puis Bibliothèque Royale qui maintenant donc a repris l'ensemble du catalogue fédéré, qui est devenu un catalogue fédéré unique en Suède. Et donc effectivement, il développe tout. Le système est vraiment, c'est un développement tout à fait maison. Et en ce moment aussi, il y a des tergiversations parce qu'il y a des il y a des tergiversations à cause de aussi de la manière dont on va peut-être passer ou non à RDA. Il y a des réflexions similaires à ce qui se fait en France. Il y a aussi la rédaction aussi d'une norme parallèle qui est le RA rond en chef. Donc ça serait un intermédiaire vers RDA, parce que donc la décision d'y aller a été prise fin 2012, mais les modalités restent à déterminer c'est un petit peu similaire à ce qui se passe en France. Voilà.
Ce que vous nous dites, c'est que la BNF va cataloguer directement RDF, c'est ça?
Bibliothèque royale de Suède. La Bibliothèque royale de Suède tergiverse au développement ultérieur, parce qu'il y a des tergiversations concernant RDA, donc non pas RDF mais RDA et donc l'implémentation nationale ou non de ce modèle de description des données basé sur FRBR. Voilà. Anna Svenbro du ministère de la Culture, et j'ai été auparavant responsable du secteur scandinave à la BNF, donc ce qui m'a fait suivre un peu ça. Voilà.
Pour votre intervention, merci beaucoup.
Merci. Bonjour, Nicolas Legrand de La Villa. J'aimerais juste réagir sur deux choses vis-à-vis de RDF. Vous avez dit que RDF ne stockait que des liens. C'est pas vrai. Même dans l'export du Sudoc, qui est un endpoint Sparkle, on peut trouver directement écrit dedans les titres des livres ou les noms, prénoms des auteurs. Est-ce que vous n'envisagez de n'utiliser que des liens, finalement, dans le RDF que vous allez faire?
Alors, j'ai un peu grossi, et là je parle sous le couvert de Philippe, mais si on est en pur RDF, on n'a que des liens. Si le titre est une œuvre qui est elle-même une autorité décrite dans une base d'autorité, ce n'est plus qu'un lien.
Quasiment toutes les bases RDF que j'ai pu voir.
Donc,
comme
mais aujourd'hui, on ne fait pas un vrai pur RDF dans les exports du Sudoc, parce qu'on ne peut mettre que les liens que nous gérons dans le Sudoc, c'est-à-dire les liens d'autorité, les liens aux autres titres, les liens qui sont aujourd'hui gérés dans le Sudoc. Ah oui, c'est pas interdit d'avoir des jeunes de caractère, oui. Oui. C'est pas une interdiction, effectivement.
Oui, du coup, il y en a beaucoup, même data.bnf.fr ou dbpedia, dans lesquels on peut utiliser directement comme base de données et remonter beaucoup d'informations sans avoir forcément besoin d'être connecté à autre chose. Et par rapport au manque d'interface de RDF que soulignait M. Calfon, bon, même si je ne suis pas un grand fan de dbpedia parce que les données sont un peu crado quand même, il faut dire que quand même, l'interface pour nourrir cette base de données existe. Existe puisque c'est Wikipédia, donc il y a quand même quelques trucs qui existent déjà.
Voilà. Alors une autre question ici.
Oui, bonjour, Christian Renette du CEA. J'avais une question par rapport à RDF. Tout à l'heure, on parlait de hub de métadonnées qui était sous RDF. Et Monsieur Jean Bernon disait que par rapport au SGBM, on allait peut-être faire un format intermédiaire, pas totalement partir sur le RDF. Je voulais comprendre un petit peu les interactions entre donc le hub de métadonnées qui va être en RDF et puis le SGBM, on ne sait pas trop quoi.
Alors,
c'est plus une explication. Hein,
d'accord. Alors, le hub de métadonnées, comme on l'a dit effectivement ce matin, c'est une moulinette. C'est-à-dire que l'objectif, il est de faire rentrer des métadonnées dans tout format possible, de ne pas se préoccuper du format d'entrée, donc que ce soit un format bibliographique, un format d'éditeur, un tabulé, tout ce qu'on veut, de le transformer dans le hub en un format unique basé sur RDF, de manière à avoir un seul format à l'intérieur du hub pour après remanipuler ces données pour les ressortir dans des formats différents. Donc pour pouvoir travailler des multiples formats, les stocker pour les retravailler et les exporter après, on a décidé d'utiliser le RDF comme socle, support de première transformation des métadonnées qu'on reçoit, de manière à ne pas avoir, en fonction de chacun des formats, à faire des moulinettes différentes, on va dire. Donc c'est vraiment le format pivot au centre du hub. Je parle sous le contrôle dilemme, si je ne dis pas de bêtises. Et la sortie, ben on sort des formats, on peut sortir du Dublin Core, on peut sortir du MARC, de l'UNIMARC, du MARC 21, du CABART, enfin, selon le besoin qui existera derrière. Aujourd'hui, le périmètre des métadonnées qu'on traite par le hub, ce sont c'est les licences nationales, c'est ISTEX. Donc c'est ce périmètre-là de métadonnées qu'on travaille, sur lesquelles on améliore, pour lesquelles on fait des améliorations non seulement de contenu, mais aussi de rajouter des titres, des notices qui nous manquent, et je pense aux périodiques particulièrement. Donc il y a tout un travail d'identification qui est fait, et l'objectif c'est de charger les notices dans le Sudoc à la finale, mais un seul format d'export. Donc avec le SGBM, il n'y a pas de lien direct, simplement ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui avec le hub de métadonnées, il servira pour le SGBM. Aujourd'hui, comme l'a dit Ilham ce matin, on est dans une phase sur le hub où on est aussi bien en train de faire des tests qu'en production, on est vraiment à cheval sur les deux pour alimenter le Sudoc, mais quand on aura, j'espère un jour, trouver une vitesse de croisière dans l'utilisation du hub. Ça nous permettra d'être plus riches en alimentation de données venant des éditeurs, d'aller plus vite dans le traitement des données et d'alimenter aujourd'hui le Sudoc, demain le SGB. Donc, c'est pas lié directement au SGB, c'est un outil en plus. Alors, en amont, on a déjà du RDF, pas complètement, mais ça fait partie, comme l'a dit Jean tout à l'heure, des questions. Enfin, on n'a pas de réponse aujourd'hui, on n'a pas acté. Donc, toutes les questions sont posées et pour lesquelles on n'a pas forcément aujourd'hui pris de décision.
Il me semble que, bon, les plateformes de bibliothèques qui existent actuellement, il n'y en a aucune qui travaille en RDF, ça c'est clair. Elles travaillent en MARC. Elles ont des bases de connaissances qui, par exemple, sont capables de travailler avec du CABART ou de l'ONIX ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire que concrètement, le hub de métadonnées qui, lui, effectivement, dans son format interne, utilise RDF parce que ça lui permet de faire tout un tas de manips qu'on pourrait pas faire autrement. Il va fournir en fait du Cabart à Bacon, il va fournir du Marc au Sudoc, et le SGBM pourra aller par exemple récupérer des, s'il le souhaite, hein, des ressources avec des titres et des dates bien améliorées pour les en Cabart pour les mettre dans sa base de connaissances. Mais si, pourquoi on ne fait pas du RDF direct dans le SGBM? C'est parce que tout simplement, il n'y a pas de solution qui soit capable de faire ça aujourd'hui. Ah, si c'est clair.
Je vais profiter de...
C'est une journée sigle et acronyme. Grégory va finir cette session de questions pour Marianne. Et puis après,
oui,
on passe
je vais profiter de ta position pour m'arroger la dernière question. On tourne autour de la notion, Jean l'a évoqué ce matin. On peut changer de système de nouvelle génération, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est si on inscrit ce changement de système dans un cloud, dans un nuage. Alors, je ne suis pas certain, moi le premier, que pour tous les collègues, est-ce qu'on peut résumer en quelques éléments, quelques arguments, ce que le fait de s'inscrire dans le cloud introduit comme différence par rapport à un changement de système classique. Pour ne pas vous le cacher, quand j'ai présenté ces évolutions-là à mon directeur de DSI dans mon université, il a haussé les épaules en me disant « le cloud, c'est un effet de mode, c'est juste un moyen, c'est pas une fin en soi ». Alors que dans notre contexte documentaire, il semble quand même que de s'y inscrire ou pas introduise une réelle différence dans les choix de système qu'on fait. Est-ce qu'on peut juste revenir sur ce point pour essayer de voir comment, en quelques mots, on peut donner les avantages de s'inscrire dans cette architecture-là?
Et en quelques mots, hein, Marianne, c'est sympa comme question en quelques mots.
Je ne suis pas sûre que je sois la meilleure pour y répondre, parce que j'ai les mêmes questions. Donc, quelque part, non, mais pour vous, le Sudoc, c'est dans un cloud, parce qu'il n'est pas dans votre système. Donc le cloud, c'est simplement un endroit, quelque part, centralisé. Bon, en l'occurrence, pour le Sudoc, vous savez que c'est à Montpellier, sur les machines du CINES, enfin dans le bâtiment du CINES, mais c'est un cloud. Donc là, la question, je crois, et je laisserai finir Jean, parce que je pense qu'il saura mieux dire que moi, là, on est dans un cloud, l'idée, c'est un cloud international, et pour être plus précis, un cloud commercial. Parce que je pense que c'est dans ces termes-là qu'en réalité la question se pose. Mais autrement, on est dans le cloud depuis longtemps.
Un petit complément d'information.
Oui, vraiment en une phrase, c'est juste que c'est-à-dire que le Sudoc, c'est un système commun. À partir du moment où on veut un système mutualisé commun, bah, par définition, ce système, il n'est pas dans votre établissement. Ou alors, on peut imaginer que ce soit un des établissements qui soit le support pour les autres, mais au moins pour tous les autres, c'est un système dans le cloud. Bon, déjà. Alors, pourquoi un cloud international? Bah, parce qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être que les données nationales ne nous suffisent pas, tout simplement. Voilà. Hein.
Et pour compléter, il y a un changement de... Enfin, lié à cela, il y a un changement de modèle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans le cloud, vous n'avez pas, il n'y a pas les investissements en machines à faire sur place. Et on est sur des principes d'abonnement à un service. Mais c'est déjà le cas en partie, même si vous ne le voyez pas avec le Sudoc. Dans le Sudoc, vous êtes déjà sur une partie où vous participer aux frais de fonctionnement de l'ABES ou en tout cas de la plateforme sur laquelle repose le Sudoc, c'est basé sur une participation aux frais de la part des établissements.
Parfait, merci à tous.